Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, vous et toute l'équipe. Hélène Manarino, Eva Roch, Bertrand Chamerois et Charles Decan, de retour dans ce studio en présentiel, comme on dit. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, du tango et des vétos. L'infomédia du jour autour du documentaire Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. Doc qui raconte la vie chaotique de Charlie Hebdo, de sa naissance sous De Gaulle, au procès des frères Kouachi. Nous serons avec son réalisateur Hugues Nancy et Alice, dessinatrice au journal depuis 2018. Nos invités ensuite, il est rare dans les médias, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, autrement dit le numéro 2, Stéphane Sidbon-Gomez, des France Télévisions qui lance une nouvelle chaîne éphémère et culturelle, s'appelle Culture Box, pas seulement sur Internet et sur les box, mais également sur la TNT, avec quel numéro de canal et quand, il nous dira. Enfin, le photographe et cinéaste Yann Arthus-Bertrand, il présente ce soir sur M6 son dernier film très attendu, Legacy, ça veut dire héritage, c'est un peu le monde vu du ciel, c'est à la fois somptueux, terrifiant et passionnant, il sera là, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bon retour, bienvenue, c'est votre journal des médias. Le sommaire du jour, Charles.
TF1 revoit sa copie, Canal+ porte plainte, Twitter chasse les fake news et Harry Potter prépare son retour.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
C'est TF1 qui s'est imposé avec le final de Sam saison 5. Au compteur, 4 500 000 téléspectateurs, soit 21% de part d'audience et un très joli 28% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 2 est deuxième avec 3 100 000 téléspectateurs pour le téléfilm inédit Les Sandales Blanches avec Amel Bent, soit 13,5% du public. Et France 3 ferme la marche avec Secret d'Histoire, qui a fédéré 2 millions de personnes pour 8,6% de part d'audience.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec une nouvelle conséquence de la crise sanitaire, l'incertitude autour d'un possible reconfinement qui a poussé TF1 à décaler le tournage de l'une de ses émissions phares, Générique.
C'est Mask Singer, bon, vous avez aussi reconnu, c'est aussi le générique des experts, faut pas se tromper, mais,
ouais.
Mais c'est Mask Singer.
Parce que who are you?
Voilà,
qui êtes-vous?
Le concours de chant de TF1, le concours de chant masqué de TF1, de nouveaux épisodes devaient être mis en boîte dans les semaines à venir, mais le tournage a été reporté, selon Le Parisien. Trop risqué de lancer ce gros barnum sans être sûr de pouvoir aller au bout. TF1 comptait pourtant beaucoup sur son concours de chant masqué. Face au succès du lancement de la saison 2 cet automne, TF1 n'avait même pas attendu la fin de la diffusion pour en commander une saison 3. La une espérer la tournée en février, donc, pour la garder au chaud et éventuellement la dégainer en cas de confinement ou de rupture de stock sur d'autres programmes. Elle va désormais devoir revoir sa copie. Pour l'heure, le tournage de cette saison 3 a été décalé à mai ou juin pour une diffusion prévue au mieux à la rentrée prochaine.
Le feuilleton du foot continue. Canal+ a déposé plainte contre la Ligue de football professionnel.
Et une audience a été fixée au 19 février. Canal+ conteste devant la justice la validité de l'appel d'offres lancé la semaine dernière par la LFP. C'est ce qu'a annoncé hier l'équipe.fr. La Ligue veut revendre au plus vite les droits qu'elle a récupérés de Mediapro, mais elle n'a pas remis en vente les droits que Canal+ avait payés à prix d'or et que le groupe souhaite désormais rendre.
C'est le tribunal de commerce qui va désormais examiner cette plainte. Et pendant ce temps, la maison mère de Canal+, le groupe Vivendi, continue de monter au capital d'un des groupes de presse espagnols, Prisa.
Oui, Vivendi a désormais 9,9% des parts du groupe contre 7,6% vendredi dernier, donc ça va vite. Prisa édite notamment le quotidien El País. Il possède aussi plusieurs chaînes de télé et stations radio. Actuellement, c'est le fonds britannique Amber Capital qui contrôle le groupe avec près de 30% de son capital. Amber Capital qui s'est allié à Vivendi en France dans sa quête de contrôle des actifs du groupe Lagardère.
Twitter se lance dans une guerre contre la désinformation.
Le réseau social a créé un nouveau service.
C'est un jingle ou c'est vous qui avez sifflé?
Non, non. Malheureusement, je n'ai pas ce talent. Le nouveau service s'appelle Birdwatch. Le principe est simple. Des utilisateurs vont être invités à signaler les tweets qui comportent selon eux des fausses informations sur un modèle proche de ce que propose Wikipédia. Alors, il s'agit pour l'heure d'une section dédiée de Twitter qui sera accessible seulement à un certain nombre de tweetos. Mais si l'expérience est concluante, les commentaires et contextualisations pourraient bien apparaître sous tous les tweets discutables.
Et le focus programme du jour, ce sont les deux derniers inédits des coulisses de l'histoire ce soir sur Arte.
La série documentaire est revenue il y a 3 semaines avec 6 nouveaux numéros et l'objectif du directeur de la collection, l'historien Olivier Viviorca, est toujours le même.
L'ambition de cette collection, c'est au fond de revenir sur les grandes idées reçues de l'histoire contemporaine, les mythes, les légendes qui ont marqué le second XXe siècle. Et notre volonté, c'est au fond de dépoussiérer, de porter un autre regard. Nous ne voulons pas dire que si le mythe, la légende, l'idée reçue est noir, nous allons dire blanc. Nous essayons toujours d'apporter un point de vue nuancé, mais en même temps en prenant suffisamment de recul pour contester, secouer les fausses évidences.
Après le débarquement ou la décolonisation britannique, le premier des deux épisodes de ce soir s'intéresse au pape Jean-Paul II, un pape à l'image moderne et progressiste, mais dont un portrait plus nuancé dévoile aussi une part plus sombre.
Jean-Paul II a aidé à la libération de l'Europe de l'Est. Il a joué un rôle considérable dans la fin du communisme en Pologne et dans la fin du communisme en général. Donc, de ce point de vue, on a l'idée que Jean-Paul II est l'ami des libertés, l'ennemi des totalitarismes. Oui, bien sûr, pour l'Europe, mais lorsque l'on regarde l'action de Jean-Paul II sur d'autres continents, je pense notamment à l'Amérique latine, on voit que Jean-Paul II a eu partie liée au pire des dictatures et qu'il a été plutôt l'ami des dictateurs que l'ami des opposants aux dictatures.
Olivier Vivorcao, mais au micro de Louise Bernard, les coulisses de l'histoire consacrée à Jean-Paul II puis à Ronald Reagan, c'est ce soir à 20h50 sur Arte.
On reconnaît ses notes. Harry Potter qui pourrait bientôt être adapté en série télé.
Oui, c'est en tout cas le rêve de la plateforme de streaming américaine HBO Max. Selon le Hollywood Reporter, ses dirigeants ont des discussions exploratoires avec plusieurs scénaristes pour trouver la bonne idée. Objectif, développer une série télé dans l'univers d'Harry Potter. Le processus n'en est qu'à ses prémices, mais vu le succès phénoménal des films, qui ont rapporté près de 6 milliards d'euros au studio Warner, il y a fort à parier qu'un projet aboutira bien à moyen terme.
Et on termine ce journal avec le premier projet de série d'Hillary Clinton et sa fille Chelsea.
Leur société de production vient d'acquérir les droits d'adaptation d'un livre à paraître le mois prochain. Un livre qui s'intéresse à une ministre kurde, 100% féminine qui a combattu Daesh avec succès dans le nord de la Syrie. C'est une histoire vraie. Il s'agit donc là de la première fiction développée par l'ancienne candidate à la présidentielle américaine et sa fille. Par ailleurs, elle travaille actuellement sur une série documentaire qu'elles vont produire et présenter et qui sera consacrée à des femmes d'exception. C'est le service de streaming Apple TV+, qui en a décroché les droits.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, dans notre info média du jour, un documentaire sur l'histoire très mouvementée du journal satirique Charlie Hebdo, entre archives, témoignages et dessins. Nous serons avec son réalisateur Hugues Nancy et l'une des dessinatrices du journal, Alice. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Rarement un journal aura traversé autant d'épreuves, mais Charlie Hebdo est encore debout 50 ans après sa création. Un demi-siècle particulièrement mouvementé, marqué par un attentat meurtrier, un incendie criminel, des menaces de mort, un arrêt de la parution pendant 10 ans, puis une renaissance et des dizaines de procès. C'est cette histoire et avec elle, une partie de celle de la France contemporaine, que raconte un documentaire diffusé ce soir sur France 5, Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. Bonjour Hugues Nancy.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, avec vous, avec nous dans ce studio, Alice. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous êtes l'une des dessinatrices de Charlie Hebdo. Vous avez rejoint le journal en 2018 et on vous voit dans le film, dessiné devant le palais de justice à Paris, parce que le procès des attentats de janvier 2015 est le fil rouge de ce documentaire. Hugues Nancy, pourquoi avoir fait le choix de cette première séquence, Alice dehors qui dessine ?
Vous l'avez dit, le procès est le fil rouge de ce film. Et donc, il y avait quelque chose un peu fort de voir un procès qui allait accueillir la parole des victimes de Charlie Hebdo, de ceux qui avaient survécu à cette attaque, donc l'ancienne génération. Et voir Alice, qui est la nouvelle génération, donc une nouvelle dessinatrice de Charlie, au même endroit, au même moment, au sujet du même procès. Il y avait là, d'un seul coup, le sens de tout le film, puisque l'idée, c'était de montrer que Charlie était toujours vivant. Et donc, voilà, Alice incarne dans cette séquence le renouveau de Charlie.
Alice, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez vu et dessiné lors de ce procès ?
Alors moi, déjà, pour ce procès, j'y suis allée pour faire des reportages. J'étais pas là tous les jours comme Book qui a dessiné au jour le jour. Nous, on avait décidé de faire parler le public qui venait, parce qu'au début du procès, il n'y avait pas encore de restrictions sanitaires, donc on pouvait assister en tant que public à ce procès-là. Et ce que j'ai retenu, en fait, en interrogeant le public qui était là, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup de lecteurs, finalement, de jeunes, donc j'étais assez étonnée.
Pardonnez-moi, ce qui m'a frappée, et vous aussi avec, beaucoup de lectrices.
Oui,
beaucoup de
surtout,
jeunes femmes.
Oui, ça c'était assez étonnant. Tous les plusieurs jours où j'étais là, c'était surtout des jeunes femmes, des jeunes étudiantes, souvent en droit. Mais justement, j'ai eu pas mal de témoignages qui me disaient je me suis engagée dans le droit parce que mon adolescence a été marquée par les attentats et ça a fait sens pour moi. Il y a une jeune fille qui m'a dit depuis les attentats, j'ai compris que je ferais du droit pour être utile à la société. Donc j'ai compris que dans ce procès, en y allant, que ça avait autant marqué l'adolescence du public que la mienne, et que c'était un moment très important pour pas mal de gens qui étaient là, pour nos lecteurs aussi. J'ai voulu interroger le public parce que pour rendre quelque chose à nos lecteurs aussi.
Alors, ce procès, c'est le fil rouge du documentaire, mais c'est pas non plus, il n'est pas entièrement consacré à ce procès. Dans le doc Hugues Nancy, au-delà du procès, vous revenez sur l'histoire du journal, histoire mouvementée dans laquelle se mêlent le tragique et le rire. C'est en 70 que le journal a été créé, juste après la censure d'un autre hebdomadaire, Harakiri, c'était à l'occasion de la mort du général de Gaulle, avec la fameuse une balle tragique à Colombey. Harakiri est censuré et donc il crée Charlie Hebdo, parce que Charlie, c'était le prénom de Charles de Gaulle. Harakiri se revendiquait bête et méchant, deux adjectifs revendiqués par les fondateurs de Charlie Hebdo, dont l'écrivain est dessinateur Cavana.
Bête et méchant, oui, parce qu'on revendique fièrement la bêtise et la méchanceté que tout le monde repousse. Tout le monde se veut intelligent et bon, et tout le monde agit avec une connerie merveilleuse et une méchanceté infatigable. Alors, dans ce cas-là, autant revendiquer fièrement la bêtise et la méchanceté.
Est-ce que c'est là, Hugues Nancy, que réside en partie la source des problèmes qu'aura connu ensuite Charlie Hebdo au cours de son histoire, la bêtise et la méchanceté?
Je dirais plutôt la liberté. En fait, la provocation bête et méchant, c'est... il faut se souvenir que la société de l'époque était une société qui était beaucoup plus fermée qu'aujourd'hui, où on avait, en termes de mœurs, en termes de droit politique, en termes d'organisation sociale, tout ça a été très corseté. Et donc, Harakiri, puis Charlie Hebdo, c'était une bulle, un espace de liberté, insolent, incisif. Et là où vous avez raison, ce qui va expliquer ce qui va se passer par la suite, c'est que dans cet espace de liberté, on critiquait tous les pouvoirs, on critiquait la droite, c'était elle qui dirigeait tout, mais on critiquait aussi beaucoup la religion. À l'époque, c'était le pape Paul VI, ouais, qui était à Rome et qui dirigeait l'Église catholique et qui était la cible presque préférée de Charlie Hebdo. Et donc voilà, effectivement, cette liberté-là va entraîner la suite.
Alice, est-ce que Charlie Hebdo, pour vous qui êtes beaucoup plus jeune, qui êtes arrivé beaucoup plus tard dans cette histoire, en 2018, je l'ai dit, est-ce que Charlie Hebdo est encore bête et méchant aujourd'hui ?
D'une certaine manière, oui, puisqu'on voit à quel point... Enfin, c'est perçu comme bête et méchant, encore plus à l'international, quand on voit l'actualité, par exemple.
Non, mais vous-même, qui dessinez, est-ce que vous le percevez comme tel? Est-ce que vous faites des dessins bête et méchant?
Je pense que...
Est-ce que vous le revendiquez?
Oui, il y a une certaine provocation dans le fait. Enfin, c'est un outil, en fait, la bêtise et la méchanceté. C'est l'ironie. On l'utilise pour encore plus provoquer. Dans ce terme-là, c'est un outil, en fait, la bêtise et la méchanceté qu'on va traduire dans nos personnages ou dans les façons de dessiner qu'on va utiliser. Mais par contre, je pense qu'il n'y a rien de plus responsable que les dessins qu'on propose et qu'on publie, parce que c'est un discours politique qu'on propose.
Hugues Nancy, vous l'avez évoqué, parmi les cibles favorites de Charlie Hebdo, il y a les religions, je dis bien les religions, parce que ces dernières années, on a souvent fait le reproche au journal de ne s'en prendre qu'à l'islam, ce qui est faux. Charlie Hebdo s'en est également pris au christianisme et au judaïsme, ça dépend de l'actualité évidemment. Et d'ailleurs, à chaque fois que le journal a été attaqué en justice par des organisations religieuses, chrétiennes ou musulmanes, les mots utilisés étaient les mêmes, racisme anti-chrétien, racisme anti-musulman. C'est ce que raconte celui qui est l'avocat du journal depuis 1992, Richard Malka.
D'une décennie à l'autre, j'ai eu exactement les mêmes assignations, avec les mêmes fondements juridiques, les mêmes mots, sauf que on est passé d'associations intégristes catholiques à des associations intégristes musulmanes. Ce qui est interdit, c'est de dire les musulmans sont pas des gens bien, les juifs sont pas des gens bien. Ça on peut pas dire. Mais dire le judaïsme ou l'islam, c'est pas bien, bah on a le droit. Encore heureux. Bah on n'est pas dans une théocratie, on est dans un pays laïque. C'est-à-dire que le blasphème ne peut pas exister. Il n'y a aucune révérence à avoir envers une religion, quelle qu'elle soit.
Alice, est-ce que Charlie Hebdo continue de s'en prendre aux religions aujourd'hui? Est-ce que vous continuez?
Ah bah oui.
Et est-ce que vous recevez des menaces encore?
Ah oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, surtout ces derniers mois. Depuis la republication des caricatures, on a eu, il me semble même, des menaces officielles de la part de plusieurs groupes terroristes. On a eu après... des menaces qui viennent de la Turquie, on a eu, voilà, et puis il y a eu l'actualité. Bien sûr qu'on reçoit des menaces, mais c'est pas une information que tous les matins on va courir, on va chercher, quoi. On regarde ça de loin.
Comment répondre et surtout comment continuer à faire vivre ce journal? Réponse avec Alice, dessinatrice, et Hugues Nancy, auteur du documentaire qui passe ce soir sur la 5, Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir, c'est un documentaire diffusé ce soir à 20h55 sur France 5, réalisé par Hugues Nancy, présent dans ce studio. En face de lui, en face de moi, Alice, vous êtes dessinatrice à Charlie depuis 2018. Dans le doc, il est dit que, je cite, « défendre la liberté d'expression est un sport de combat », pour reprendre la belle expression de Bourdieu. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez aussi?
Oui, bien sûr. Ça demande beaucoup d'énergie, déjà beaucoup de concentration pour ne pas essayer de dire une bêtise, pour faire un dessin pertinent et qui ait du poids et qui puisse dire quelque chose.
Mais le terme combat, sport de combat.
Bien sûr, en tout cas moi je le vis comme ça, je ne parlerai pas pour les autres, mais c'est un combat tous les jours, incessant, parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours justifier... tel ou tel dessin, il faut toujours justifier d'avoir des idées, d'être en colère, ou c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc c'est un combat dans le sens où ça peut créer une fatigue, pas au sein du journal, mais quand on sort du journal et qu'on retrouve le monde extérieur.
On va continuer à parler de dessin, avec ce dessin emblématique, mondialisé si j'ose dire, dessin de Une, dont on a beaucoup parlé, qui a valu plusieurs procès au journal. C'est un dessin de Cabu qui représente le prophète Mahomet, la tête dans les mains, en train de dire « c'est dur d'être aimé par des cons ». Les cons étant les intégristes musulmans, c'est précisé sur la Une, et non pas les musulmans dans leur ensemble. Ce dessin, ce texte, vous y revenez dans le documentaire, Hugues Nancy, et vous montrez notamment les images de la conférence de rédaction au cours de laquelle ils ont été élaborés. Ce jour-là, il y avait des caméras. C'est Philippe Val qu'on va entendre surtout, c'était le patron du journal à l'époque, avec Volinsky, Caroline Fourest et les rires de Cabu.
Mahomet débordé par sa base, on aurait dû quand même essayer d'en faire une sur ce thème, parce que c'est...
Ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment un bon thème. Ça a du sens, vraiment. Ouais. Ouais. Être aimé par des cons, c'est... c'est dur d'être aimé par des cons.
Ça, c'est pas mal, ça.
Ouais, c'est cru, mais c'est pas mal. Ah.
Tu vois, c'est dur d'être aimé par des cons.
Ouais. Mais son fait donc hyper ouais. Rigolasse, soit
c'est
franchement
débité. Humiliant, c'est humiliant d'être aimé par des cons, ou c'est dur, ou tu vois...
Ah, je pense que c'est un sujet.
C'est Cabu qui dessine, mais c'est Philippe Val qui trouve l'accroche. Et ce qu'on retient de ce moment, c'est la réflexion, mais également les rires. Hugues Nancy, qu'est-ce que ça dit, ce moment de Charlie Hebdo?
Il est très intéressant parce que moi, j'ai revécu ça dans la nouvelle rédaction aujourd'hui avec Chris, qui a un peu le même rôle. C'est-à-dire qu'il faut lancer des idées, c'est un débat permanent. Et puis les dessinateurs, soit ont leur propre idée, soit ils attrapent comme ça une idée en l'air et ils la traduisent en dessin. Et il faut rire les uns les autres pour tester, en fait. On teste les idées, ouais. et on voit si ça fonctionne ou pas.
Moi, justement, parler du rire, et Riz qui est désormais, il était entré comme stagiaire, on voit Riz qui raconte ses débuts et qui est maintenant le patron du journal. Il y a un autre fil rouge que le procès dans votre documentaire, Hugues Nancy, ce sont les rires des fondateurs en 70, les rires de Cabu, Volinsky, Val en 2006, on l'a entendu, les rires de l'équipe actuelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tenu à mettre en avant, à souligner, presque, si j'ose dire, par militantisme, ou au contraire, ça s'est imposé à vous, le rire?
Disons que j'ai eu la chance, pour préparer ce film, de voir des centaines et des centaines de Une de Charlie Hebdo, et j'ai beaucoup ri sur certaines. Et alors, ce qui était intéressant, c'est dans l'équipe, tout le monde ne riait pas sur la même. Ouais. Et donc, évidemment, oui, c'est un rire, mais Riz le dit à un moment dans le film, un dessin n'est pas forcément là pour faire rire, il peut aussi mettre mal à l'aise, et ouais. C'est souvent ce qui arrive avec un dessin de Charlie Hebdo, mais on rigole beaucoup en lisant Charlie Hebdo.
Je vais le dire différemment. Ouais. Est-ce que vous avez voulu qu'on rigole beaucoup en regardant votre documentaire ?
Disons que c'est une part de Charlie Hebdo qui devait être présente, forcément.
Ce qui est frappant, et là c'est moins drôle dans le documentaire, c'est l'évolution des locaux, l'évolution récente. Dans les années 90, le nom du journal était affiché sur l'immeuble dans lequel il se trouvait. À l'intérieur, les fenêtres étaient larges, elles donnaient sur la rue. Et puis Charlie a dû se faire plus discret, de plus en plus, intégrer des bâtiments de plus en plus sécurisés, jusqu'à aujourd'hui, où il se trouve dans un lieu tenu secret, avec de petites fenêtres en hauteur. Alice, comment est-ce de travailler, vous qui êtes dessinatrice à Charlie, dans ces conditions ?
Ce qui est malheureux, c'est qu'on s'habitue presque à dire à peu près bonjour tous les matins à 20 flics, qui sont d'ailleurs très, très sympas, heureusement qu'ils sont là. On s'habitue à passer plusieurs portes blindées, on s'habitue à ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres. Alors ça crée quelque chose de, c'est sûr, très, très rassurant de travailler là-bas. On est presque coupé du monde. Et puis il y a le moment fatidique où on doit sortir des locaux, rentrer chez soi. Là, c'est autre chose.
Et est-ce que quand vous y êtes, vous avez fait abstraction de tout cet environnement sécuritaire, sécurisé ?
Oui, enfin... En tout cas, du point de vue des dessinateurs, on a notre grande table, on passe la journée à dessiner, à essayer de débattre et puis à dire quand même beaucoup de conneries. Donc c'est une ambiance particulière où en fait, on a l'impression presque parfois d'être en colonie de vacances alors qu'on est entouré de flics, du raid, de je sais pas, enfin tout ça.
Mais ils sont aussi dans la salle de rédac ?
Non.
Hugues Nancy, vous y êtes allé ? Et c'est la première fois qu'une caméra filmait de l'intérieur les nouveaux locaux de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Comment vous avez ressenti cet espace ?
Non, mais Alice a très bien dit les choses. C'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on sent qu'on ne peut pas rentrer dans cet endroit si on n'y est pas invité. Mais moi, très vite, j'ai trouvé que l'ambiance de travail prenait le dessus. Et qu'on se retrouve dans une rédaction comme une autre. Mais c'est quand même un problème qu'une rédaction ait besoin d'autant de protection pour travailler aujourd'hui en France.
Dernière question, on parle d'un documentaire, on est une émission média, on parle aussi d'un journal. Comment va Charlie Hebdo aujourd'hui, Alice ?
Très bien.
Comment sont les ventes ? Comment sont les finances ? Parce que ça n'a pas toujours été un chemin de rose.
Oui, je me doute, mais alors ça, c'est pas du tout une question qui m'intéresse. Il faudrait peut-être demander plus à Riz. Je pense que ça va bien. Je pense que ça se vend bien plus... depuis ces derniers mois avec le procès, puis il y a aussi le web, ça a l'air d'aller.
On peut vous retrouver sur le web, c'est 30 à 40 000 exemplaires vendus chaque semaine à la louche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci pour cette franchise. Alice, dessinatrice pour Charlie Hebdo, et Hugues Nancy, merci d'avoir été là, c'est vous qui réalisez Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir, doc diffusé ce soir à 20h55, on va dire 21h sur France 5. Merci d'avoir été là.
Merci.
Dans un instant, nous serons justement avec le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon Gomez. Il va nous en dire plus sur Culture Box, la nouvelle chaîne éphémère que lance le groupe, chaîne dédiée à la culture et rien que la culture. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Stéphane Sidbon Gomez.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, numéro 2 du groupe, après Delphine Ernotte, la présidente. Votre actualité, l'actualité de France Télévisions, vous lancez début février Culture Box, une nouvelle chaîne culturelle sur la TNT, sur les box, évidemment sur France.tv, votre plateforme. Avant de savoir ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qui vous a décidé à lancer cette chaîne d'un genre nouveau ?
L'idée qu'on a besoin de se retrouver, qu'il y a besoin de retrouvailles entre les artistes, le monde de la culture et les Français. Mais je pense que ça manque beaucoup aux Français.
Vous n'avez pas prononcé le mot virus ni pandémie, exprès ?
Non, on a besoin que le spectacle continue malgré tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe autour de nous.
Alors qu'est-ce qu'on va voir pendant 3 mois ? J'anticipe un petit peu la réponse suivante sur la durée de la chaîne. Il y aura du live, des spectacles vivants, des émissions. Qu'est-ce qu'on va voir sur Culture Box ?
L'idée, c'est d'avoir une chaîne ouverte pour les artistes, pour que les Français puissent retrouver vraiment la culture, du spectacle. Tous les soirs, il y aura un art différent. Chaque soirée sera consacrée. Un soir, vous aurez de l'opéra, le lendemain, de la musique urbaine. Il y aura du théâtre, il y aura du ballet, il y aura plein de tous les arts, toutes les cultures seront invitées, tous les artistes seront là pour prendre la parole.
C'est une chaîne qui sera diffusée 24h sur 24 ?
Absolument, c'est une chaîne qui sera diffusée 7 jours sur 7, 24h sur 24. Tous les jours, il y aura une émission quotidienne qui sera animée par Daphné Burki et Raphaël Yem. qui inviteront tous les artistes directement en plateau pour discuter, pour faire du live, pour présenter leur création pendant le confinement.
Ça sera une chaîne en direct ou enregistrée ?
Ce sera une chaîne en direct.
Pardon,
et
l'émission, pardon pour le lapsus. L'émission.
On est en train encore d'affiner, mais il y aura des fois du direct et des fois de l'enregistré.
À quelle heure ? Programmé à quelle heure ? Donc Raphaël Guem et Daphné Burki, à quelle heure ?
On sera en access, on sera entre 19h et 20h, à 21h, au moment où il y a le plus de monde devant la télé. Voilà.
Donc ce sera l'émission spécifique tournée pour la chaîne. Sinon, que verra-t-on sur cette chaîne Culture Box ? Est-ce qu'on va voir des rediffusions de vos émissions emblématiques ? Je pense à La Grande Librairie de François Bunel ou Passage des Arts de Claire Chazal.
Absolument. L'après-midi, vous aurez des rediffusions des magazines culturels de France Télévisions. On a une offre très riche de magazines culturels. Donc, il y aura du livre, de la culture. Et le soir, ce sera vraiment priorité au spectacle, comme je vous le disais. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être une chaîne de rediffusion. C'est une chaîne qui offre une meilleure exposition à une offre culturelle très riche de France Télévisions. Et c'est plutôt de permettre aux Français de voir des spectacles qu'ils n'ont jamais vus à la télé jusqu'à aujourd'hui.
Par exemple ?
Je pense par exemple au dernier spectacle d'Ousmane Sy. Vous savez, on a eu ce décès tragique pendant les vacances. Le dernier spectacle, il a été capté pour Culture Box. Il devait être disponible que sur notre plateforme numérique. Il sera en prime time sur la chaîne Culture Box.
J'ai complètement oublié de vous demander, dans le feu de cette révélation, l'émission présentée par Daphné Burki et Raphaël Guem, quel sera le nom de l'émission quotidienne de Culture Box ?
On va faire simple, Culture Box, l'émission.
Voilà, les nuls, l'émission.
Exactement.
Vous avez 33 ans.
Ça vous rappelle des souvenirs ?
On voit par là votre culture. On voit par là votre culture. Vous avez été bercé et biberonné au nul. Il y aura d'autres émissions d'archives ? Est-ce que vous allez avoir un côté
Ina ? On est encore en train d'affiner. Vous savez, on a eu l'idée de cette chaîne il y a 10 jours avec Delphine Ernotte, suite aux annonces de Jean Castex et de Roselyne Bachelot. Et depuis, il y a une mobilisation, un enthousiasme des équipes de France Télévisions qui travaillent d'arrache-pied. La dernière fois qu'on a lancé une chaîne, très vite, c'était en 10 mois. C'était France Info. Là, on va le faire en 15 jours.
Ouais.
Donc, c'est inédit. Donc, la grille, on est encore en train de l'affiner. On va parler avec l'INA, on va parler avec Radio France, on va parler avec tout l'audiovisuel public pour que toutes les pépites culturelles qui existent dans l'audiovisuel public puissent trouver une exposition sur cette chaîne.
Donc, on pourra monter jusqu'au numéro d'apostrophe de Pivot, voire Dumayet et Céline dans Lecture pour tous.
Pourquoi pas ?
Là, vous n'étiez pas né, c'était en 57. Combien de temps va durer la chaîne ?
J'en sais rien. L'idée, c'est que cette chaîne, elle est ouverte aussi longtemps que les lieux de culture sont fermés. En durée théorique, on s'est fixé un objectif d'une durée de 3 mois.
Ouais.
Je n'ai pas plus d'informations que vous sur ce qui va arriver avec ce virus et ce confinement. Donc voilà, on va faire...
Seriez capable de tenir plus longtemps ?
L'idée, c'est que France Télé doit être au rendez-vous des Français. On l'a fait pendant le premier confinement avec les programmes éducatifs. On l'a fait pendant le deuxième confinement en lançant en quatre jours l'émission 6 à la maison pour donner la parole aux artistes. Et là, il fallait faire quelque chose en plus parce que la culture manque aux Français. Et donc, on s'est dit, on va essayer de lancer une chaîne. C'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose de très... un défi, même technique. Il y a tout France Télé travaille non-stop depuis 10 jours pour y arriver. Mais c'est magnifique parce que c'est à ça que le service public peut être utile.
Si ça, la maison sera repris sur Culture Box ?
Probablement, oui.
Alors, pardonnez-moi, où est-ce qu'on pourra voir la chaîne ? J'imagine sur la plateforme France.tv, mais l'annonce spectaculaire, c'est la TNT. Delphine Ernotte, votre présidente, a déclaré au Figaro, elle sera disponible sur la TNT, j'espère, sur le canal 19, libéré à la suite de l'arrêt de France O. Elle espère, c'est pas certain, ou c'est acté ?
Notre objectif, c'est que la chaîne soit vue par le plus grand nombre de Français. Et c'est pour ça que c'était très important pour nous de demander une fréquence TNT. Dès les premières heures, il y a eu un enthousiasme et un soutien absolu de Roselyne Bachelot et du ministère de la Culture, sans quoi on n'aurait pas pu préempter une fréquence TNT.
Ouais.
Et là, notre dossier est en train d'être examiné par le CSA. Évidemment, c'est au CSA qu'appartient la décision.
C'est une question de jour, parce que vous le lancez quand cette chaîne ? J'ai lu début février. Alors j'ai regardé, début février, ça peut être lundi 1er, ou alors lundi 8, ou alors un week-end. C'est quoi vos...
On sera en ordre de marche pour être prêt dès qu'on a les autorisations du CSA.
Donc là, vous attendez la décision du CSA pour avoir ce canal de la TNT, on imagine le 19,
on
et là,
espère.
Ça peut démarrer.
Oui, absolument.
Et ils vous disent quoi ? On a tout le temps des bruits de couloir, c'est dans la semaine.
Non, moi, je ne me fie pas aux bruits de couloir. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, le président du CSA a été sollicité dès le début et qu'il a affiché en volonté politique vraiment un très vif intérêt pour cette chaîne et pour le projet culturel que porte France Télévisions dès que Delphine Ernotte en a parlé avec lui.
Ouais, la chaîne aura un coût estimé de 5 millions d'euros. Qui va les payer ?
Bah, si on va faire des économies supplémentaires, on va redéployer du budget. On a appris depuis un an à être assez agile et à s'adapter. Des fois, on investit plus et puis on joue des annulations, etc. Le but vraiment, c'est ce que je vous disais, même si France est dans un contexte économique difficile, c'est de faire tous les efforts pour être au rendez-vous des besoins des Français.
Dernière toute petite question sur ce sujet, il y aura de la pub ?
Non.
Du sponsoring ?
Non, a priori, il pourra y avoir des fois des parrainages de captation de spectacles comme on le fait habituellement à France Télé, ce qui nous permet de mieux financer la culture, mais ce serait une chaîne sans pub.
Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et programmes de France Télévisions, c'est la rentrée, nous sommes en janvier et il faut qu'on parle de cette rentrée 2021. Il y a toujours une rentrée, il y a toujours un mercato à la télévision, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, 9h, 11h, Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie, on est très heureux de Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, en gros le numéro 2 du groupe. Vous n'avez que 33 ans, je le rappelle, parce que vous avez quand même la main sur une enveloppe de près de 1 milliard d'euros. On va parler des programmes qui arrivent là, maintenant, en janvier, en 2021. Quelle nouveauté pour cette rentrée de janvier ?
Alors on a fait le choix de lancer beaucoup d'émissions, une dizaine de nouvelles émissions pour cette rentrée de janvier. C'était un engagement qu'avait pris Delphine Ernotte de dire qu'on ferait une vraie rentrée. En septembre, on n'avait pas pu à cause du Covid, donc on a fait une vraie rentrée en janvier. On a beaucoup de belles choses. Hier soir, on lançait C'est ce soir, une émission de débat d'idées sur France 5, tous les soirs en deuxième partie de soirée, du lundi au jeudi, animée par Karim Rissouli. Ouais. La première était hier avec Michel Perrault et elle a tenu sa promesse.
Ça a marché ?
Ça a marché. On a surtout remis les intellectuels à la télé, donné du temps long au débat, à la parole... à une parole un peu qui sort des débats habituels.
Et je vous interromps, 372 000 téléspectateurs, 2,5% de part de marché, c'est un bon score ?
Excellent.
Excellent. Vous n'attendiez pas davantage ?
Mais non, et surtout, pour moi, c'est pas uniquement, vous allez dire triche, mais c'est pas surtout une question d'audience. Ce qu'on souhaite, c'est atteindre un objectif de remettre une offre qui n'existait pas aujourd'hui à la télévision. Donc je ne vais pas avoir les yeux rivés tous les jours à 9h sur l'audience de cette émission.
Et une offre qui existait précédemment, puisque ça rappelle quand même l'émission présentée par Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais, qui
absolument,
était un débat
mais
avec des intellectuels.
Il y a une grande tradition du débat intellectuel le soir tard à la télé. Vous avez cité Frédéric Taddeï, il y a eu le 5 de minuit avec Michel Fil, Laure Adler. D'ailleurs, je suis très heureux que Laure Adler ait accepté de rejoindre cette émission. Voilà, c'est une grande tradition du service public. C'est une chose que le service public faisait et qui n'existe nulle part ailleurs. Et on est très fiers de l'avoir rétabli.
Et je précise que nous recevrons demain Karim Rissouli dans Culture Média, le présentateur de C'est ce soir. Autre nouveauté dans un autre genre. Ah non, je vais rester sur les magazines. Affaire sensible qui rappelle quand même furieusement Faites entrer l'accusé. En tout cas sur le papier.
Oh, c'est un autre style.
Une
quand
émission
même.
De faits divers moi, que vous avez supprimée qui revient.
Parce que Affaire sensible, on va faire une autre émission de faits divers, là pour le coup, le samedi après-midi sur France 2, au bout de l'enquête qu'on lancera dans quelques semaines. Et qui est plus dans la tradition de faire entrer l'accusé. Affaire sensible, c'est l'émission de France Inter qui est bien connue des téléspectateurs. Et c'est plus d'aller chercher toutes les grandes enquêtes, des scandales d'État. Ça sort du cadre du fait divers quand même.
Demain, mercredi, ce sera le dernier numéro de Pièce à conviction. L'émission sera supprimée ensuite pour dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui n'a pas emporté votre conviction dans ces pièces ? Pourquoi l'émission est-elle supprimée ?
Alors, tout d'abord, les pièces à conviction, c'est un magazine d'information, donc c'est Laurent Guimi et la rédaction qui sont souverains là-dessus. Mais en revanche, c'est la vie des émissions. Ça faisait plusieurs, très longtemps que Pièces à conviction était installée, avec des très belles enquêtes. Mais c'est aussi notre travail de renouveler des émissions, de lancer des nouvelles marques, de lancer des nouvelles choses, de surprendre le public. Moi, je ne crois pas que la télé doit être une routine. Et d'ailleurs, demain soir, on lance aussi 6 à la maison sur France 2, qui revient en hebdomadaire. On l'avait lancé en quotidienne pendant le deuxième confinement pour donner la parole aux artistes, une émission culturelle sur France 2.
Avec Anne-Elisabeth Lemoine. Autre nouveauté, une émission de cuisine avec pas n'importe qui. Maurice Sacco, jeune chef découvert dans Top Chef, si je me souviens bien, qui vient d'obtenir sa première étoile. Ce sera le samedi à 20h15 sur France 3. Ça va s'appeler Cuisine ouverte. Cuisine ouverte sur quoi ?
Cuisine ouverte, on est très fiers de travailler avec Maurice Sacco, qui est vraiment un des chefs les plus prometteurs, qui a une très belle énergie. Et lui, tout son art culinaire, c'est le mélange, d'aller puiser dans différentes traditions culinaires, le Japon, la cuisine africaine, la cuisine française, et de savoir mélanger tout ça. Il fera le tour des régions et il ira interroger comment on peut mêler des cultures, des cuisines, etc.
Et il incarne également la diversité, parce qu'on ne voit pas sa couleur de peau à la radio.
Absolument. Mais il n'est pas blanc. Et c'est un jeune chef de 28 ans d'origine sénégalaise et qui est très très talentueux et très prometteur.
Michel Simès, alors, il est là, il s'en va, il revient, exit son émission Prenez soin de vous, dont les scores avaient été décevants, c'est l'avis des émissions, vous l'avez dit. Il va revenir tous les dimanches avec Antidote, 17h40 sur France 2. C'est une émission de médecine ou c'est une émission d'infotainment ?
C'est une vraie attente qu'il y a eu pendant le confinement de parler de santé avec un peu plus de légèreté. Il y a une vraie demande aujourd'hui des Français pour plus de science, plus de santé. Vous savez, on a lancé une consultation citoyenne pour dire aux Français qu'est-ce que vous voulez comme programme. C'est ressorti et il n'y a personne de mieux que Michel Simès, vraiment, qui est notre référent de santé, le docteur du service public, pour porter Antidote. Donc, qui donnera à chacun des conseils, des remèdes, qui ira proposer des solutions à toutes les questions qu'on se pose sur un médecin.
Mais ce n'est plus vraiment une émission de santé pure et dure, comme on l'a connue quand il présentait le journal de la santé.
Non, c'est plus divertissant. L'idée, c'est de s'amuser en apprenant.
Oui, parce que là, selon le Parisien d'hier, il a recruté un vétérinaire, une humoriste et surtout un mentaliste, Fabien Olicard, 1,8 million d'abonnés sur YouTube et un kiné, alias Major Movement, sur Google, où il a 300 000 abonnés. Là, on est très, très loin du serment d'Hippocrate.
Je pense qu'il apprendra à mettre la santé et la science à hauteur d'homme, et c'est aujourd'hui véritablement l'attente des Français, et que Michel Simès le fait très bien, c'est un passeur de science pour nous.
Et un animateur très populaire. Qu'en est-il de Thierry Ardisson ? Vous aviez annoncé mi-novembre que vous lui aviez commandé un pilote. Depuis, plus de nouvelles.
Je vous confirme, on travaille sur un pilote, on est en développement, c'est un projet technologique assez innovant que je viendrai vous présenter quand il sera prêt, mais on avance.
Ah, merci pour cette promesse. Et Michel Drucker, que je salue parce que je sais qu'il écoute l'émission, quand reviendra-t-il à l'antenne ? Vous aviez parlé du printemps lors de la conférence de presse de rentrée. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que c'est toujours l'échéancier ?
D'abord, on discute très régulièrement avec Michel, qui est véritablement un des piliers du service public et qui, pour moi, est un parrain qui m'a toujours conseillé, qui m'a toujours accompagné et qui est un repère fondamental pour les Français et vraiment... un pilier de la famille France Télévisions. Et donc, on souhaite qu'il revienne le plus vite possible. J'ai annoncé qu'il serait là au printemps. Je l'ai annoncé avec lui. Il a très envie de revenir.
D'accord. Donc, il sera là au printemps. Mmh. Avec des nouvelles émissions ou la continuité de ce qu'il faisait déjà ?
Bon, pour l'instant, on va revenir avec Vivement Dimanche, mais on travaille sur pas mal de concepts avec lui. Et il est toujours très créatif. Il a eu le temps de réfléchir. Il regarde la télé tous les jours. Il nous donne des conseils tout le temps sur ce qu'on peut lancer comme nouvelles émissions.
Justement, propos surprenant de votre part, vous dites que vos principaux concurrents, ce ne sont pas les groupes TF1 ni le groupe M6, mais Netflix. Pour quelle raison ?
Je pense qu'aujourd'hui, et ce qui est en train de se révéler, mais ça fait 2-3 ans qu'on le voit, c'est que Netflix va devenir le média leader en Europe et qu'il est en train de le devenir en France et qu'il attire aujourd'hui des nouvelles générations,
même en
des
termes de chiffres,
publics,
même en termes de nombre d'abonnés.
On voit le succès de Lupin. Et je pense que plutôt que de nier cette réalité, le travail des services publics, c'est de s'adapter, c'est de réagir, c'est de surprendre le public. Vous savez, il y a d'autres services publics européens qui ont vécu ce moment-là où Netflix est devenu leader. Et puis, assez vite, ils ont retravaillé, ils ont repris leur légitimité, ils ont repris le leadership. C'est ce que doit faire France Télévisions.
Combien d'abonnés à Salto aujourd'hui ?
Je ne sais pas, il faut leur demander à eux.
Il y avait 200 000 fin décembre selon les échos. Et le chiffre pour Netflix, c'est en France 9 millions d'abonnés. Comme il y a 3 utilisateurs en moyenne par compte, on en est à 27 millions d'abonnés sur Netflix. Merci d'être venu nous voir, Stéphane Sidbon-Gomez. Merci pour cette promesse de revenir à nouveau en parler également avec Thierry Ardisson, qu'on invite et qu'on salue. Culture Média continue. Après le rappel des titres, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une mini-série aux airs de Friends et Chameroy pour son écran de veille rajeunissant. Il en avait bien besoin, Chameroy. Notre invité, globetrotter, réalisateur, c'est Yann Arthus Bertrand pour son nouveau film Événement Legacy, c'est sur M6. Tiens, j'aurais pu vous demander pourquoi ça ne passe pas sur le service public et puis dans les indispensables. Les 100 ans de la naissance du roi du tango et un film inattendu sur Netflix. Merci encore Stéphane Sidbon-Gomez. Culture Média continue.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.